Dans la release de cette semaine, une mini machine, une taille millimétrée, des inscriptions microscopiques, une femtocell.
L'émission aujourd'hui est composée de deux sketchs, Pierre Bernd et Lakis et Anthony Mazur pour une spéciale Kit Baya. Et j'espère que tout le monde a mis son petit truc sur silencieux. Bonjour Anthony.
Bonjour Pia d'abord.
Hello.
Bonjour Anthony.
Salut.
Oui, on est à nouveau en studio une semaine après une émission qui a été d'anthologie. J'espère que vous allez bien.
Écoute, on fait aller. On a la voix qui se casse un peu.
Ouais, ouais. On sort quand même de belles spéciales et c'est pas prêt de se terminer. Et bonjour à toi, enfant du futur média. Toi qui aimes les jouets de plus en plus gros, jusqu'au jour où tu préféreras les avoir plus petits pour qu'ils tiennent dans la poche. Oui, j'ai ce reste de mes vieux fantasmes d'enfance. D'ailleurs, dans ce studio où, improvisé chez moi, on voit que j'ai des gros engins. Ici, il y a un lecteur bêta SP de studio. Ici, il y a un gros compresseur. Et là, mon gros Brakmar. Pardon, ça c'était la semaine dernière. Oui, j'ai ce reste de ces vieux fantasmes d'enfance, disais-je, avant d'être interrompu par moi-même, quel gros malotru. J'aime les engins industriels, lourds, gros, costauds, lourds. Mais j'aime aussi bien avoir ces mêmes engins dans des dimensions réduites. Et après tout, entre le gros casque de studio Cantoni et ses présentements de garder sur sa tête malgré ses 730 grammes et les écouteurs intra-auriculaires de 6 grammes que Pia doit soutenir du bout des doigts pour les garder dans le conduit de l'oreille, bah les deux gizmos ont exactement la même fonction. Faire entendre mes vieilles rengaines. Bigger is solid et small is beautiful. Deux visions de l'évolution avec une majuscule sous l'accent aigu dont aujourd'hui nous ne traiterons que de la seconde. Je parle de la vision, pas de la majuscule. Enfin bon. Tu es perdu dans ma phrase précédente, elle mériterait d'être simplifiée. Alors qu'en fait, non, le thème de cette release est compact. Note bien les faux amis, ne confond pas la miniaturisation et minimalisme. Les deux termes ne sont pas synonymes, les deux intentions peuvent être même devenir contradictoires. Il y a parfois des soucis d'impact à réduire les fonctions. Prends un microprocesseur,
un CPU quoi.
Réduire la finesse de gravure de ces pistes le rend certes plus rapide, plus économe en énergie, mais augmente sa sensibilité à la température interne, au rayonnement cosmique d'ailleurs aussi, ou à la température du cosmos. Mais donc, il y a en fait les possibilités de son autodestruction qui remontent justement parce que la gravure est beaucoup plus fine. Donc, pour réduire un composant intégré, il faut aussi réduire le voltage de fonctionnement, ce qui le rend encore plus sensible aux perturbations électriques externes. Mais réduire la taille d'un appareil peut non seulement réduire son usage pratique, mais même impacter sa fonctionnalité. Tiens, je te parle d'un truc que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, les caméras vidéo familiales. Comment ça, ça rigole? Oui, mais attends, et jusqu'au début des années 80, ces engins étaient lourds. Tu tenais au point l'optique et le capteur dans un bloc. En bandoulière sur la gauche, tu trimballais le magnétoscope et tu avais une impressionnante ceinture de batterie. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu n'oserais même pas sortir parce que sinon, on te prendrait pour Human Bomb. Si, si, il y a des gens fortunés qui achetaient un tel bazar pour filmer les premiers pas du petit dernier. Puis, dans les années 1980, arrivèrent de l'audacieux Japon les premiers caméscopes monobloc où l'ensemble était suffisamment compact pour tenir dans un gros engin comporté, posé sur son épaule. Alors là, Anthony ne peut pas le voir, mais derrière, tu sais la grande mallette beige que j'ai? Tu vois, bah c'était l'emballage de ce genre de magnétoscope, de caméscope, pardon. Et moins d'une décennie après, ces engins devenaient suffisamment réduits pour être tenus avec une main, puis finalement pour tenir dans la main. Enfant du futur immédiat, je dois te faire une confidence. Entre autres crimes de guerre, je dois confesser une certaine tremblote. Ce n'est pas un secret pour mon entourage. Confie-moi un gobelet en plastique rempli à ras-bord et la moquette va être trempée. De fait, je n'ai jamais pu m'y faire au caméscope de poing. Alors que la caméra qui reposait sur mon épaule avait un deuxième point d'appui, c'est-à-dire je la portais pas uniquement, hein, je la posais aussi sur l'épaule. Et donc, plus de stabilité et une inertie avec ça. Oui, ces engins pesaient presque une dizaine de kilos, à comparer avec les caméras actuelles, à peine plus grosses qu'une banane et pesant le poids d'un gobelet d'eau, que je vais pas tarder à renverser d'ailleurs. Et je ne te parle pas du smartphone dont les vidéos seraient difficilement lisibles si on n'avait pas inventé le stabilisateur d'image. Résultat des courses de ma tremblote Force 9. Quand je partais en reportage pour une chaîne de télé, aujourd'hui heureusement disparue, le monteur me refilait une caméra un poil plus ancienne que celle de mes collègues, plus grosse, afin d'avoir des images stables. C'était ça où il vomissait sur son bon de montage en visionnant mes rushs. Et c'est véridique. Anthony, Fred, Olivier, les autres, si vous m'écoutez, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé pour vous. Pour tout ce que je vous ai fait subir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je fais maintenant plus que de la radio. Et oui, voilà la vraie raison pour laquelle les équipes de reportage télé ont encore des caméras d'épaule plutôt que des smartphones. Pourtant, c'est pas forcément mieux avant. Les caméras vidéo ont gagné en résolution d'image, en perception par faible luminosité, en autonomie de batterie, en durée d'enregistrement. D'ailleurs, la caméra d'épaule des années 80 avait en guise de viseur une mini-télé cathodique en noir et blanc nichée dans l'œilleton. Le genre de pièce que t'avais une peur bleue de casser au moindre choc. Maintenant, si nous tournons un documentaire dans une grande usine, pour te faire un beau plan large, on prend un drone qu'on pilote au smartphone, sur lequel on a un retour vidéo en couleur et en HD. Et justement, reprenons notre smartphone. Il y a 10 ans, tous les téléphones portables avaient une batterie remplaçable. Tu pouvais facilement la remplacer si elle avait un problème ou si tu en avais besoin d'une un peu plus performante. Sauf que les constructeurs furent pris d'une obsessionnelle réduction de taille, à amincir les smartphones, à économiser 2 mm de hauteur, à condamner l'accès à ses entrailles pour le rendre étanche. Bref, la vie du smartphone est intimement liée à sa batterie, irremplaçable. En tête de cette course, Apple qui en a fait la plaie de ses Mac portables. On est passé du disque dur au SSD et ce dernier est désormais directement soudé sur la carte mère. Ce qui veut dire que tu ne peux plus le changer. Officiellement pour gagner quelques millimètres, officieusement pour te faire payer au prix du caviar et tuer dans l'œuf le marché des pièces détachées. Bah ouais, et le giga de SSD vendu par Apple vaut bien 5 fois le prix que celui vendu par son fournisseur Samsung. Alors que, quand même, c'est exactement le même matos. Enfant du futur immédiat, nos gizmos favoris deviennent de plus en plus compacts, car moins de volume demande moins de matières premières, coûte moins cher à produire, à transformer, et surtout, produit moins de pollution au final. Mais entre nous, le prétexte, il est petit, petit, petit. Thank you. Little Arithmetic, c'était le single avec lequel le groupe belge Deus s'était lancé. C'est Pia qui m'a dit « Ouais, t'as ça ?» Ah, mais attends, regarde, dans toute cette collection de compacts qui tiendrait dans un quart de huitième de process de puce SSD, il y a le single.
J'ai demandé Deus.
Il y a le single Deus, oui.
Je l'ai demandé, c'est une requête.
Oui, 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 oui. Disque à la demande, tout ce que tu veux. Mais bon, vous êtes sur Radio FMR.
On avait Deus Ex Machina.
Et carré petit utile.
Bon, allez, je vous la fais courte. Après les voitures, Anthony et Pia partent en mini.
Kill Bayat, un podcast présenté par Anthony Mazur et Pia Pandelakis.
Bon, alors, j'avais prévu... J'ai essayé de trouver des blagues pour introduire cette émission. J'étais partie en disant faire une petite blagounette marrante sur le fait que Anthony et moi, c'est 3,10 m de bonheur. Et puis, en fait, je lui ai demandé sa taille et je me rends compte qu'il est grand. Donc, voilà, je suis le seul petit des deux. Donc, c'est un fail absolument massif. Mais,
laisse, j'ai déjà fait la blague en intro.
Mais à mon avis, on va en faire des kilomètres. Mais bref, on va parler de ce qui est petit. Je pense que tout le monde l'aura compris.
Ce qui est petit, ce qui est mini. Alors pourquoi ? Pourquoi ce thème ? Notre podcast analyse les enjeux sociaux, politiques des applications numériques. Et un des enjeux majeurs, nous semble-t-il, les applications, c'est qu'elles sont petites. Elles tiennent dans notre poche. C'est des petits carrés qui tiennent dans les écrans de plus en plus réduits. Mais en fait, on vous laisse demander si c'était si simple. Et est-ce que le mini serait en soi producteur de valeurs positives ? Ce qui n'est peut-être pas évident en fait.
Ouais, puis surtout ce thème du mini, finalement, il est peut-être un peu décalé par rapport à d'autres thèmes qu'on a pu explorer. Finalement, c'est un peu évident. On se dit, les smartphones sont petits, ce sont des concentrés de puissance dans la poche. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste ? Alors justement, on en a un peu discuté entre nous et on a trouvé que c'était ça qui était intéressant. Comme d'habitude, on va un peu dézoomer pour remettre la question des apps dans un environnement plus grand. Et on va remettre ces apps, justement, dans une galaxie plus vaste du petit, galaxie à laquelle le Hi-Fi, par exemple, pourrait appartenir. Et puis, tout un tas d'imaginaires. À commencer par l'histoire de l'informatique, c'est pas Xavier qui dira le contraire, traversée par le fantasme de réduire, de rapetisser, qu'il a un petit peu évoqué en introduction. Fantasme en partie réalisé, de réduction des échelles. Alors l'exemple le plus typique de ça, qui est un contre-exemple en fait, ce sont ces grands ordinateurs mainframe qui sont aujourd'hui des pièces de musée. Alors ce qu'on appelait les grands mainframes, ce sont en fait des ordinateurs, mais si grands qu'ils prenaient en fait la taille d'une pièce à vivre ou d'une pièce de bureau, et souvent moins puissants que nos smartphones actuels, alors qu'ils étaient justement si envahissants. Donc ce qui nous intéresse aussi dans cette question du mini, c'est que ça vient reconnecter l'histoire de l'informatique, un truc hyper informatique. Je suis encore contaminée par la 69. L'histoire de l'informatique, disais-je, reconnectée à l'électronique. Voilà. Et donc, la miniaturisation est une affaire de composants. Anthony, débrouille-toi avec ça.
Et une affaire de taille. Bah, toujours dans les exemples très, très généraux, très connus, l'exemple de la mission Apollo 11 sur la ligne 69, dont, paraît-il, l'ensemble de la puissance tiendrait aujourd'hui dans nos poches et on aurait même des choses plus puissantes. Ou encore ces CD-ROM qu'on n'oublie pas. Par exemple, l'Encyclopédie Universalis qui, du coup, a été progressivement numérisée, qui tient dans une petite galette. Ou encore le Musée du Louvre. On peut se balader sur un petit écran et voir toutes les œuvres. Ces histoires des CD-ROM feront bientôt l'objet d'un essai. Peut-être ça pourrait intéresser Xavier, chez B42. Voilà, il y aura quelqu'un qui va écrire l'histoire des CD-ROM.
Mais si tu veux t'intéresser à des choses qui concentrent des plus grosses choses, la Pokéball, hein, j'ai envie de te dire. Hein.
Bon, génial.
Désolé, je troll un peu cette émission. Bon, alors après, bien sûr, un élément quand même central, c'est le fameux processeur, dont la réduction de taille a permis l'apparition des ordinateurs personnels.
Oui, bah, un des exemples clés, c'est le Xerox Star de 1981, toujours dans la partie historique. Certes, qui était réduit dans son encombrement, mais il faut aussi noter que c'était un des premiers, voire le premier ordinateur à comprendre une interface graphique. Ce qui veut dire donc qu'en fait, le fait que les ordinateurs se répandent dans le public, voire dans le public un peu élargi, même si ça coûte encore très cher à l'époque, c'est pas seulement qu'une question de taille. Il y a aussi d'autres facteurs qui doivent être pris en compte. Et comme contre-exemple parfait à cet ordinateur, moi j'ai toujours en tête l'ENIAC, alors c'est pas mainframe, mais ce supercalculateur de John William Moseley, cet ingénieur qu'on voit donc sur des photos brancher et rebrancher des câbles, étant donné que c'est un ordinateur analogique. Donc ça engageait...
Non, c'est un calculateur. Ça veut dire que tu peux pas rentrer de programme, c'est pour ça qu'ils le font avec des câbles.
Oui, mais le programme, tu
rentres
pas des câbles.
Les programmes, tu les câbles,
oui, c'est
carrément.
Ça. C'est ce que je voulais dire. Hein.
Mais je veux dire, c'est pas un ordinateur dans ce cas-là.
D'accord.
Et donc, j'ai fait une leçon à un prof. Ouais.
T'es gars, je vais citer Deleuze. Voilà, cette machine analogique qui engage un rapport au corps qu'on retrouve ailleurs.
Ouais, bah effectivement, l'idée de l'homme, l'humain, qui engage son corps entier face à l'ordinateur qui est son équivalent physique, ça revient dans un extrait de film qu'avec Anthony, on cite à plus soif, qui est 2001, l'Odyssée de l'espace. La mort de l'ordinateur HAL dans ce film, c'est un moment très physique et qui engage carrément le corps, puisqu'il faut lui enlever cassette après cassette, alors je ne sais même pas si le terme exact est cassette d'ailleurs, enfin bande après bande, des composants de sa mémoire et de son programme.
Donc, bah, c'est intéressant, parce que là, on est encore sur un rapport assez physique, en tout cas aux machines. Mais depuis une quarantaine d'années, grosso modo, bah, le corps, petit à petit, se réduit dans l'électronique et il semble se réduire à ses prolongements. Ici, on peut penser à la scène fameuse du film d'animation Ghost in the Shell, le premier, où du coup, on a ces mains robotiques qui se déplient. On a des dizaines de doigts d'un robot programmeur qui viennent taper sur un clavier, comme si on pouvait réduire le corps humain à ses périphériques.
En gros, ce dont tu nous parles, c'est une sorte de super Mechanical Turk. Alors qu'il faut quand même définir.
Point lexique.
Ouais, voilà, petit point lexique, parce qu'on nous accuse des fois de trop jargonner.
Ouais, parce qu'en plus, je crois que c'est un cyborg. Ce sont pas des robots, ce sont des cyborgs.
Bah alors,
donc, il y a un
interdiction de
troller
le débat avec le point geek Ghost in the Shell. C'est non, sinon c'est Deleuze plus Michel Foucault.
Tu vois la rangée là-haut ?
Mais je te donne exprès de pas la regarder, parce que je sais que tu vas me les jeter à la figure. Mais donc, le Turk mécanique, c'est une référence à un système ancien, dans lequel on a un robot, alors d'ailleurs représenté comme un turc, ce qui n'est pas anodin, qui exécute un certain nombre de tâches, qui est censé répondre à un programme et qui en fait est un fake, hein, c'est-à-dire c'est un pantin animé par une personne dissimulée. Aujourd'hui, quand on parle de turc mécanique, ça fait référence au travail déguisé et notamment au fameux turc mécanique proposé par Amazon, où en fait vous pouvez de cette manière déléguer des tâches à des personnes, on va dire, très éloignées de vous physiquement, et qui réalise ces tâches pour des sommes assez petites. Donc tout ça en somme pour dire, ces robots dont tu nous parles dans Ghost in the Shell, est-ce que c'est pas aussi le retour de l'esclave robot dont on a déjà parlé ici plusieurs fois?
Sans doute, en tout cas dans les deux cas, c'est un corps qui est atrophié. Dans le cas des pauvres prolétaires, on les voit pas, on a accès qu'à une façade de programme, et après les cyborgs, on sait pas trop ce que c'est non plus.
Bon, en gros, t'es en train de montrer que les apps, c'est pas seulement une affaire de commodité d'usage, hein, mais ça... On le répète souvent, hein, c'est pas seulement une histoire de ça marche, ça marche pas, mais ça aussi implique différents rapports au corps. Moi, ça me fait carrément penser à des études, alors qui datent un peu aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait fait grand bruit. Il avait été question du fait qu'au Japon, des personnes avaient eu des crampes ou des problèmes musculaires graves. À force d'envoyer des textos, ils avaient les pouces bloqués.
Ça s'appelle le syndrome carpien.
Ça peut être le pouce, les poignets, ça dépend de ce qu'on fait. Mais en tout cas, les troubles musculosquelettiques, on les retrouve aussi ailleurs, notamment dans les gros claviers. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément des téléphones. Et même de façon peut-être plus décisive, déjà dans, évidemment dans les usines. Hein, ces ouvriers qui avaient tout un tas de problèmes. En fait, dès qu'on fait une tâche répétitive, des problèmes peuvent apparaître. Et donc, du coup, on peut se demander si ça sert à quelque chose de mettre l'accent, de pathologiser, de dire que le numérique, ça crée toujours des pathologies, alors qu'en fait, il y en a partout et ce n'est pas forcément propre au numérique.
Moi, je suis assez d'accord avec toi. Puis je m'oppose, bah, d'ailleurs, comme toi, au fait qu'à chaque fois, on profite d'une critique des outils numériques pour dire que le problème, sans doute, vient du numérique. Inversement, il faut quand même être également critique du discours qui voudrait faire des outils numériques la solution à tous nos maux. Et du mini-numérique, puisque c'est le sujet de cette émission aujourd'hui, ou du mini appliqué au numérique. Alors, un film qui risque de pas mal nous faire parler quand il sortira, c'est le fameux Downsizing, qui va sortir prochainement en 2018, avec Matt Damon. Alors, très rapidement, c'est un film où, sur la base d'une critique de l'épuisement des ressources planétaires, un ensemble de personnes, et notamment une grande entreprise, propose aux gens de se miniaturiser pour consommer moins de ressources. Alors, quand vous miniaturisez, vous miniaturisez tout, y compris votre richesse. Alors toi, Anthony, qui a du Bitcoin, tu pourrais en avoir encore...
du mini-Bitcoin,
un nouveau fork. Tu pourrais avoir du mini-Bitcoin, tu pourrais être du coup très riche et vivre dans ta maison de poupée. Mais bon, voilà, ça c'est le pitch de base, mais j'y reviendrai peut-être dans l'émission.
C'est Ant-Man ton truc, en fait.
Bah, c'est un peu, Ant-Man, et en même temps, ça fait carrément flipper, parce que downsizing, sous un côté très sympa de « on réduit les gens, ça va être plus, la vie va être plus marrante à petite échelle », il faut quand même se souvenir qu'à la base, le verbe « downsize » en anglais, ça veut dire « réduire », et c'est pour licencier les gens en masse. Donc, sous cette idée de « plus petit pour plus heureux », on se demande s'il n'y a pas aussi un agenda politique assez compliqué.
On ne l'a pas encore vu, donc.
Non, mais alors le film, par contre, il fait grave écho à des choses qui existent déjà. Par exemple, bien sûr, « Chérie, j'ai rétréci les gosses » dans les années 80. Et tout ça, je vais en reparler après dans les questions plus politiques, tous ces films un peu minifiles qui en fait ne sont pas minimalistes. On peut se demander si c'est y a bien quelque chose là de très nouveau. Est-ce que c'est pas finalement la reprise des voyages de Gulliver qui nous ferait parler à leur endroit d'un gullivérisme, qui sait.
C'est quoi ton truc là? C'est le goût de la navigation web, là, c'est rendipité, je me balade.
Non, pas vraiment. Bah, en fait, quand on pense aux voyages de Gulliver, donc c'est un bouquin qui a été publié au 18e siècle par Thomas Swift, vous le connaissez mieux sans doute, enfin, en général quand on parle des voyages de Gulliver, les gens connaissent souvent le premier qui est le voyage de Gulliver à Lilliput, donc ça désigne le fait d'aller dans un univers, utopique ou non, à échelle réduite, sachant qu'aujourd'hui c'est devenu un enjeu commercial, il y a un parc à thème à Warrington en Angleterre, il y en a même un au Japon qui a fermé, et puis pour alimenter ce thème du gullivérisme, je vais faire plaisir à Xavier, il y avait aussi une BD, Les Petits Hommes, où un ensemble de personnages étaient réduits après leur contact avec une météorite. Alors il y a eu une variante qui s'appelle Les Petites Femmes, mais c'est absolument infâme de misogynie, donc j'ai décidé qu'on se contenterait de la citer sans plus avant rentrer dedans.
Alors, je ne sais pas si Petite Femme peut aller dans le parc des châteaux miniatures ou dans Arthur et les Minimoys. À voir, en tout cas, dans ces différents exemples, il y a différentes échelles du mini qui surgissent. Il n'y a pas un seul mini, il y en a plein.
C'est important. Et comme on va parler après du maxi, là, je reviens du Berlin. Je reviens de Berlin. Décidément, non, mais vraiment, là, on est dans un état pitoyable avant les vacances de Noël. Donc, je reviens de Berlin. Et je me faisais la réflexion que là-bas, tout était vraiment à échelle 1,2. Ça m'a ramené à ma condition de hobbit une fois de plus.
Tes exemples sont intéressants. Enfin, d'un côté, on voit que le mini est à comprendre comme un système de valeurs, ce qu'a peut-être déjà montré Baudrillard avant nous, bien au-delà des petites applications. Et donc, le petit qui a pénétré depuis longtemps la culture commerciale, au travers notamment du slogan dont parlait Xavier, « Small is beautiful », devient évidemment un argument de vente super important.
Fermez les lasers !
Attention, procédure armement en cours.
Laser armé !
À toutes les unités. Gigalaser prêt à tirer.
Contactez-moi le président. Tu vas adorer, suis-moi, mini-moi. Je vais menacer un des grands dirigeants de la Terre. Bon, je suis d'accord que ça manque un petit peu d'originalité, mais... Mini-moi. Mini-moi. Où es-tu? Ce serait pas possible de l'équiper d'une foutue clochette. Ah, t'es là. Apportez vite un crochet. Agrippe-toi au bout, on va te descendre. Tu es tout pour moi. Je t'adore. Tiens bon, mini-moi. Tu sais, s'il t'arrivait malheur, je ne sais pas ce que je ferais. Il est probable qu'avec le temps, je finirai par te remplacer, mais pendant 10 minutes, je pense que je serai vraiment inconsolable.
Small is beautiful, ou mini-moi is beautiful, mais tiens, ça me fait penser, on avait parlé de bagnole la dernière fois.
Bah oui, historiquement, c'est quand même un point important. La voiture Mini, initiée par la compagnie British Motor Corporation, BMC, à partir de 1959, qui, donc pour la première fois, consacrait 80% de l'espace de la voiture aux passagers et à ses bagages. On se demande où est passé le reste. Alors bien sûr, c'était aussi lié à la crise du pétrole et la voiture pesait moins lourd, donc ça consommait moins. Et c'est quand même une des voitures les plus célèbres du XXe siècle. Un peu plus tard, donc la Mini de BMW en 1969. Et c'est dans les avatars Mini, cette fois en capitale, donc plus tout à fait Mini, à partir de 2001, les voitures qu'on connaît peut-être davantage.
Sans oublier ce gadget ultime que je n'ai pas renoncé à acquérir, le Twizy. Mais maxi-prix, hein, Mini encombrement, mais maxi-prix le Twizy. Blague à part, c'était intéressant. Hein. Enfin, au final, plus on réduit, plus on trouble les catégories. Une très petite voiture, c'est aussi un très gros scooter. Hein.
Bah, dans le genre, la Twingo de Renault à partir des 92. Et puis, plus proche de nous, la marque Smart, 94. Alors, c'est intéressant, j'ai appris que c'était né de l'association de Swatch, l'horloger, et de Mercedes-Benz, je l'ignorais. Ensuite, bon, c'est Renault qui a repris tout ça.
Et qui l'ont construit en France.
Comme quoi.
Ouais.
Mais bon, Pia, peut-être que tu retiendras après.
Bah, finalement, au-delà des voitures, parce que là, on a refait un petit point cars après notre émission de la dernière fois, c'est de voir que le design est traversé aussi alors, par ces tendances, entre guillemets, et notamment la téléphonie. Donc là, on revient un petit peu aux apps. Souvenez-vous d'une époque pas si distante où le nec le plus ultra était d'avoir un téléphone le plus petit possible. C'est d'ailleurs une chose qui avait été considérablement moquée dans le film Zoolander avec Ben Stiller, où les téléphones étaient si petits qu'il fallait les prendre entre le pouce et l'index. Et puis après, on a vu cette tendance s'inverser avec la mode des smartphones, dont la taille les fait parfois rivaliser avec des petites tablettes.
Oui, la barrière est en train d'être levée, notamment avec ces phablettes, des modèles comme les iPhone Plus, qui étaient petits, mais on rajoute plus, donc on en revient peut-être du mini. Peut-être que ça se vend bien.
Alors que d'un autre côté, la très petite taille, c'est un des liens qu'on mettra sur le site de l'émission, c'est notamment les téléphones qui sont prévus pour se mettre dans le tugudu pour rentrer en prison.
Ah, t'as l'air au courant.
Moi, j'aimerais revenir sur Mini Moi, qui est vraiment un de mes personnages préférés. Et penser que Mini Moi n'est pas seulement un personnage de Austin Powers 2, hein, de l'extrait qu'on vient d'entendre, mais c'est aussi finalement une figure de l'avatar. L'avatar, c'est pas seulement une version de soi dans un autre espace, enfin un cyberespace, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est aussi, voilà, un Mini Moi. Et puis, de nombreux jeux vidéo projettent cette réalité en petit et incarnent ce goût de la miniature. Alors, on pense bien sûr aux Sims et à toutes ces versions qui en sont des exemples célèbres. Et puis des créations plus récentes, moi j'étais très très fan de Tiny Tower, qui était vraiment une espèce de fantasme architectural de la tour infinie et qui utilisait complètement la puissance de scroll de l'iPhone. En fait, vous construisiez comme ça une tour en ajoutant étage après étage, chaque jour après chaque jour, et c'était du mini et en même temps de l'infini, puisque le scroll sur le téléphone est infini.
Un exemple peut-être extrême des avatars, c'est Black Mirror, une série qu'on cite souvent. Saison 2, épisode 3, il y a cet épisode avec l'avatar peluche Waldo, qui est en fait joué par un comédien et qui après donc est projeté sur tous les écrans. Et en fait, cet avatar, petit à petit, on vient à captiver totalement l'attention du public au point où il peut remporter des élections législatives. Donc l'avatar devient plus réel en quelque sorte.
Bah, si tu veux parler d'avatar et de Black Mirror, il y a un exemple encore plus mini d'avatar. C'est l'épisode spécial White Christmas. Alors en plus, c'est bien, c'est deux saisons. C'est un dispositif vraiment flippant. Il me semble qu'on en avait parlé quand on avait fait l'émission sur les majordomes. Principe simple, on fait une copie de toi à l'échelle 1/10. On le soumet à la torture mentale pour le briser. Et ensuite, on obtient l'esclave parfait qui en même temps connaît tes moindres désirs puisqu'il est toi. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple-là, c'est qu'on voit que le mini-monde, qui est une copie du grand monde, eh bien ce mini-monde est souvent au service du grand, et on le verra tout à l'heure avec un de mes épisodes préférés de Rick et Morty. Mais avant de parler de Rick et Morty, il y a quand même un épisode des Simpsons absolument génial, où Lisa, en perdant sa dent, l'arrose de coca, et elle crée ainsi la vie, alors elle a une sorte de vie accélérée qui se met en place sur sa dent, mais qu'est-ce qui se passe? Elle devient Dieu, Bart évidemment devient le diable.
Ce que tu dis, c'est intéressant. Est-ce que finalement, les petites personnes, les petits êtres, ne sont pas nos esclaves? Donc, si les hobbits mini sont mimi, est-ce que les nains portent tout dans le Seigneur des Anneaux? La question peut être posée. En tout cas, les avatars et ces personnes de taille réduite imposent un autre système de valeurs et donc de signes. les avatars, dès qu'ils sont mini, bah, ils nous modélisent, ils deviennent des modèles. L'exemple de Black Mirror, je pense, est assez parlant de nos comportements. Et toujours, dans, pour rester dans ces exemples-là, les emojis sont un cas intéressant. Je crois que Xavier a une émission là-dessus. Et donc, ces récentes querelles autour des couleurs de peau des emojis qui sont jaunes, mais qu'on peut désormais, grâce à, notamment à des changements dans leur encodage Unicode, paramétrer avec des couleurs de peau différentes, ce qui permet du coup une normalisation et une variation de l'affichage de ces symboles autrement tristement uniformes.
Bah d'ailleurs, on en parlait un petit peu tout à l'heure parce que tu avais tendance à dire que les gens demandaient un peu tout et n'importe quoi à Unicode, qui ferait mieux de se consacrer à certains caractères spéciaux un peu plus urgents. Pour contourner ce frein, on peut bien sûr penser à l'application, bah apparemment une des apps les plus téléchargées en 2017, Bitmoji, qui permet de créer son propre avatar emoji et l'insérer dans n'importe quel programme de chat.
Alors, je ne l'ai pas testé, mais il y en a une autre aussi qui est un peu flippante. Une application développée en 2016 par un développeur russe. Alors, quand on dit russe, ça fait toujours peur. Eugenia Cuida, qui du coup promet ou permet de faire revivre un ami proche, donc un ami à lui décédé dans une voiture. Il a téléchargé plein de données, et donc avec de l'intelligence artificielle, on peut chatter, n'importe qui peut chatter avec son ami qui est mort. Et ça fait évidemment écho à cet épisode de Black Mirror, c'est promis, c'est la dernière fois qu'on le cite dans cette émission. Saison 2, épisode 1, où du coup une intelligence artificielle puis un androïde, après ça s'incarne, fait revivre un conjoint mort, pareil en voiture. C'est assez troublant.
On est en plein dans la puissance de duplication des apps, c'est-à-dire qu'il y a un mini-monde dans les apps, certes, mais question, là je te la soumets Anthony, Xavier, est-ce que les apps ne rendraient pas aussi le monde, notre monde à nous, concret, enfin j'ose pas dire réel, plus petit ?
Ou alors est-ce que ça crée un autre monde, un mini-monde, et puis si c'est le cas, bah, quid des autres mondes ? Et finalement, est-ce que dans ce mini-monde, on n'est pas finalement tristement seul ?
Bon bah alors du coup, ça y est, le temps est venu pour moi de citer Rick et Morty.
Non,
tu me l'as interdit et je promets d'essayer de faire mieux en 2018.
On la blacklist la prochaine fois.
Épisode géant, je me permets quand même de le pitcher parce qu'il est ultime. The Ricks Must Be Crazy, donc la batterie de Rick tombe en panne et pour la réparer, il se miniaturise, lui et son petit-fils Morty qui l'accompagne dans ses aventures. Et là, il découvre une petite ville dans sa batterie de voiture, en fait un micro-monde entier qui trime pour fournir l'électricité de la batterie.
C'est pas normal, ce tuyau est censé envoyer 20 TWh d'électricité jusqu'au moteur. Au lieu de ça, on a zéro. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent tous ?
Comment ça tous ?
On va devoir faire de la réparation sur place. Morty, tiens-toi quelque chose.
Sans déconner, je croyais qu'on était à l'intérieur de ta batterie. Il y a genre une planète entière là-dessous.
Merci Morty, je suis plutôt fier de ce bébé. Viens voir. J'ai intégré un vide en nid d'abeille à l'intérieur d'un champ temporel modifié jusqu'à ce que la planète développe une forme de vie intelligente. Je lui ai ensuite fait découvrir les merveilles de l'électricité qu'elle produit maintenant à l'échelle globale. Et une partie sert à alimenter mon moteur et à recharger mon téléphone.
T'as une planète entière qui produit de l'électricité pour toi, c'est de l'esclavage !
Non, c'est leur société. Ils travaillent les uns pour les autres, ils se paient les uns les autres et font des enfants qui les remplacent quand ils sont trop vieux pour produire de l'électricité.
Ça ressemble à de l'esclavage sous une forme plus élaborée.
Oh purée, toi tu vas tremper ton biscuit à la fac.
Petit à petit, sans un remords et sans un cri, Dame vieillesse s'introduit dans notre corps qui se flétrit et dans notre âme qui s'endurcit. Petit à petit, petit à petit, nos rires enfantins disparaissent dans le désert d'une chambre vide, remplie d'odeurs déjà fétides, qui se caressent. Petit à petit, nos délicats amours se fondent dans ce noir océan d'oubli, toutes ces brumes qui s'enfuient aux tristes rondes, si tristes rondes. Petit à petit, nos pauvres doigts ankylosés ne peuvent trouver le galop de quelques notes sur un piano. Où est le ré? Où est le ré? Petit à petit, on sait que se creuse juste là, au beau milieu de notre salon, que se creuse le trou profond, où toi et moi, on tombera. Oui, toi et moi, on y tombera. Oui, toi et moi, on y tombera. Quand la belle amante nous embrassera, quand la grande amante nous enlacera, quand la dernière amante nous terrassera, nous terrassera.
Almacita, petit à petit, extrait de son premier album, si je ne me trompe, Rien n'est joué, qui était sorti en 2010. Vous écoutez Radio FMR, CCPU. Et ça ira mieux si j'ai le focus sur la bonne fenêtre.
Killed by App.
Et on reprend Killed by App, donc sur le thème mini. Mini.
Mini. Rick et Morty. Rick et Morty, je n'en démords pas. Sur l'extrait qu'on a écouté avant la chanson, il y a quand même un twist assez génial. Donc je répète, il y avait un mini monde contenu dans la batterie électrique de Rick. Mais sauf qu'en fait, en allant visiter ce monde d'esclaves qui travaillent pour alimenter la batterie, il découvre un autre savant fou qui lui-même a construit une batterie avec dedans un autre mini monde et ainsi de suite à l'infini. Ce qui me fait rebondir sur un truc dont on n'a quand même pas parlé, qui est hyper important côté miniaturisation, la loi de Moore.
Oui, bah, les mondes qui s'enchaînent du mini, peut-être qu'ils tourne vers le nano, toujours plus petit. Et donc la loi de Moore, c'est intéressant. Peut-être qu'elle prend fin bientôt. Alors je rappelle ce que c'est. La loi de Moore, en tout cas, c'est tous les deux ans, le nombre de transistors sur une surface donnée est censé doubler. Mais le problème, c'est qu'on arrive peut-être à une limite physique qui sera atteinte, paraît-il, vers 2021. Xavier, ne m'interromps pas si j'ai des bêtises.
Mais je crois qu'en fait, on l'a carrément déjà faite. Et
que donc, on ne peut plus réduire la finesse des transistors.
Oui, et donc c'est le Moore en question, c'est l'un des fondateurs Intel, c'est lui qui a créé le principe de microprocesseur. Et en fait, sur le dernier proc d'Intel, bah, en fait, il triche en empilant, en agrandissant. Déjà, on est allé vraiment très proche des limites physiques.
Alors, cette situation, elle ouvre en fait de manière assez sérieuse, non pas sur les mini-mondes, mais sur les nano-mondes. Et là, je vais faire référence à un ouvrage qui est assez intéressant, qui s'appelle Aujourd'hui le nano-monde. Bon, il commence à dater un peu. C'est un ouvrage qui est publié par un collectif qui est Pièces et Main-d'œuvre et qui est basé du côté de l'Isère, si je ne m'abuse. Alors, j'aime bien cet ouvrage parce que c'est un ouvrage assez militant qui propose une vision moins romantique du mini que celle qu'on a évoquée. Bon, alors, c'est aussi des gens qui sont, on va dire, militants de gauche pour aller vite et qui n'hésitent pas, pour affirmer leurs propos, à donner des tacles régulièrement au militantisme féministe et queer. Ça, j'ai pas très bien compris pourquoi. Mais néanmoins, c'est quand même assez intéressant, notamment sur tout un propos autour de la nanotechnologie et des stratégies de construction de ce qu'ils appellent l'acceptabilité.
Alors ça, c'est très intéressant. Ça peut faire écho à ce que disait, non pas Deleuze, mais le linguiste Noam Chomsky, dans son ouvrage déjà ancien de 1988, « La fabrication du consentement », sous-titre de la propagande médiatique en démocratie, où donc Chomsky analysait toutes les stratégies permettant à des sociétés ou à des gouvernements, il n'y a pas de différence dans le livre, de manipuler l'opinion, notamment via des intermédiaires et des médias dominants. Et Chomsky parle par ailleurs du coup de l'importance de faire des autodéfenses intellectuelles, et il dit qu'on devrait même précisément enseigner ça dans les écoles.
Et alors le collectif Pièces et Main-d'œuvre ne démérite pas d'une certaine manière par rapport à cette ambition, parce qu'en fait, d'autodéfense intellectuelle, ils proposent dans leur ouvrage de démonter le prétendu processus démocratique ou la consultation citoyenne qui est régulièrement produite à l'endroit des nanotechnologies. Alors, il y aurait une mauvaise diffusion de l'information autour des dangers des nanotechnologies ou des consultations citoyennes bidons. Enfin, tout ça est très bien expliqué dans le livre que je ne peux pas résumer ici. Ils envisagent deux axes que je trouve assez pertinent de mentionner assez rapidement. rapidement. Alors les nanotechnologies, déjà, il y a des enjeux de manipuler la matière au niveau de l'atome. Hein. Donc ça serait l'idée d'avoir des tout petits robots constructeurs qui manipuleraient la matière atome par atome. Donc là, on est sur des technologies encore relativement expérimentales, mais qui ne sont pas sans danger. Un des dangers qui a été quand même souvent évoqué, c'est d'avoir ces robots qui s'emballent et de manière quasi virale, qui se mettent à démonter la matière atome par atome, mais de manière, on va dire, contaminante. C'est ce qu'on appelle la grey goo, hein, la matière grise. Hein. Et donc, ça aura des conséquences.
Oui, ce qui paraît cool, mais en fait, il n'y a plus personne sur Terre.
Voilà. Et puis sinon, il y a quand même des dangers plus lisibles, ou en tout cas des applications qui, elles, sont plus lisibles, ce qu'ils appellent les objets miniaturisés intelligents. Donc, ce sont tous ces micro-dispositifs de puces RFID, d'objets pucés, qui colonisent petit à petit nos possessions et nos dispositifs.
Souvent, ce que tu dis, c'est que comme toute technologie, il y a des enjeux politiques, et donc la nanopolitique, elle est très importante, parce que dès lors qu'une chose n'est plus visible par des êtres humains, peut-être que du coup, elle ne peut plus faire l'objet de débats politiques, étant donné qu'elle n'est plus publique. On ne la voit pas, on ne peut pas la discuter. Et donc, c'est tout le problème de la physique quantique. À une certaine échelle, il devient totalement impossible de prévoir le comportement de certains éléments, atomes et sous-atomes. Et donc, appliqué au champ de l'informatique, alors là, peut-être ça peut être plus positif. Ça ouvre la voie à ce qu'on appelle des calculateurs quantiques qui, du coup, ne sont plus basés sur des 0 et des 1, mais peuvent prendre beaucoup plus de valeur et donc être potentiellement beaucoup plus puissants. Et j'ai ainsi vu des tentatives de répliquer des calculateurs ou des objets du quotidien à l'échelle atomique, ce que tu évoquais.
Il faut être aussi un petit peu prudent. Alors sur ces questions, la revue Nautilus, pareil, donc ça c'est, on la cite à peu près 3 fois par émission, a publié dans son numéro 29 une série d'articles dédiés aux échelles. Et j'avais été assez interpellée par l'article de Lawrence Krauss sur les Theories of Everything, donc les théories de la totalité. C'est l'idée qu'aucune théorie, que ça soit de, on va dire, newtonienne, quantique, décidément, ne marche à toutes les échelles.
Alors c'est peut-être le moment de revenir sur le Small is Beautiful. En fait, c'est peut-être plus compliqué, mais bon, il faut quand même revenir là-dessus. J'ai vu qu'on devait cette expression à l'économiste Friedrich Schumacher d'un essai du même nom de 73. Et du coup, alors j'ai l'impression que c'est plutôt positif. Sa pensée s'inscrit à la fois chez Keynes et dans la lignée du penseur Ivan Illich, avec une attention portée à l'équilibre des ressources humaines et naturelles, ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être développement durable.
Ouais, mais alors là, attention, parce que tout comme éco ou écologie, il y a une séduction du terme mini, une séduction du terme micro qu'on retrouve à coller à n'importe quoi pour faire jeune, contemporain ou que sais-je. Micro-entreprise, micro-crédit, on revient dans les torts du langage publicitaire. C'est aussi dans la publicité, vous savez, dès qu'un produit est censé bien marcher, on sort des loupes et des microscopes pour vous montrer les radicaux libres en action. Alors, même si mini et micro, ça peut désigner des modèles intéressants, c'est un effet de langage et donc d'image, comme je viens de le montrer, qui n'est pas anodin. Quand on dit micro, en fait, on dit un peu inoffensif.
Bah oui, c'est un peu comme le downsizing. Finalement, on croit que c'est cool. En fait, on licencie peut-être des personnes. C'est ce que dit le chercheur Maurizio Lazzarato dans un essai récent, La fabrique de l'homme endetté, où du coup, l'auteur montre que la notion de dette, finalement, c'est pas quelque chose de négatif pour l'économie capitaliste. Peut-être qu'elle est volontairement produite, et même sans doute qu'elle se situe au cœur de ce projet-là. Et donc, dans tes histoires de micro quelque chose, micro crédit, bah, c'est peut-être pas quelque chose de plus petit, mais peut-être un tout honnêtement beaucoup plus grand, voire délirant. Et peut-être ça fabrique de la maxi dette, ces micro choses.
Oui, micro crédit, maxi dette, effectivement, ça paraît assez cohérent. Moi, je trouve aussi que le mini, c'est souvent le lieu d'une dépolitisation des discours. La figure la plus emblématique de ça, c'est le colibri. On en entend beaucoup parler. Alors, c'est une légende amérindienne qui a été, alors en plus. D'où, parce qu'amérindien, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui aurait été popularisé par Pierre Rabhi et qui nous dit, voilà, il y a un incendie dans la forêt, les animaux sont désemparés et seul le colibri vient apporter 3 gouttes d'eau dans son bec et il dit, je fais ma part, voilà. Je ne veux pas saquer le colibri, je le hais, quoi. Cette espèce de sentiment de bien faire, pour moi, c'est vraiment une image dépolitisée de l'action. Et puis, on retrouve un peu, ça essaime, hein, ces typologies de langage. Il n'y a pas longtemps, je suis allée faire un tour sur l'agence de recherche sur l'énergie, donc Institute for Energy Research, et il nous place cette citation en amorce de son site. Quand quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose est trop gros. Alors oui, sans doute, magnifique citation de Léopold Corps, mais le problème de ça, c'est que par effet miroir, tout ce qui serait petit aurait une supériorité morale, comme le colibri. Ah, si j'en fais un peu, je fais, donc c'est bon.
All the Small Things, Blink 182, extrait de l'album qui les a fait connaître, Enemy of the State, et c'était en 1999. Vous écoutez CPU, c'est l'émission Carré Petit Utile, vous êtes sur Radio FMR.
Killed by Up.
Et Anthony et Pia me regardent désespérément en disant « Je crois qu'on va faire plus grand que prévu pour l'émission mini.
» On était sur les petites choses, les nano-choses qui produisent des effets démesurés qui pourraient nous entraîner dans une boue grise. Et ben peut-être que les petites choses ont plein de pouvoir. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de parler de Sarkozy. Et t'es talonnette qui, du coup, vise à peut-être à compenser un problème de taille. À voir. En tout cas, en France, le politique ou les hommes politiques sont souvent grands. Et du coup, Macron, à côté de Sarko, il est moins mini, peut-être.
Oui, alors après, je pense que ce que tu essayes de dire par là, c'est qu'il y a quand même toujours une domination symbolique, et particulièrement du côté des hommes, de la grande taille. Mais inversement, moi, j'aimerais pas faire oublier, avec mon histoire du colibri, qu'il existe aussi un risque de mini-washing, hein, comme on a le green-washing, rendre les trucs écolo pour mieux les vendre, il y aurait aussi du mini-washing. Et on le voit aussi avec des problèmes de surveillance. Encore récemment, on parle d'emoji espion sur Facebook ou ailleurs. On se rend compte que ce terme de mini, il cache des dispositifs hyper problématiques qui vont se glisser un peu partout dans nos téléphones, par exemple. J'ai entendu parler encore ce matin sur Twitter de composants espions qu'on peut installer dans des téléphones quand on va les faire réparer dans nos officines en ville.
Encore plus flippant, on en parlait avec Xavier tout à l'heure, ces serveurs web qui seraient cachés au niveau des processeurs Intel dans des couches logicielles très très basses.
On en a parlé
en deçà de l'OS.
On en a parlé hors enregistrement, mais ça aussi, ce serait une émission par contre purement technique qui est à prévoir.
Alors, pour revenir sur les apps, parce que c'est quand même une émission sur les apps, il faut penser qu'elles ne sont pas seulement un monde en modèle réduit, mais que aussi le modèle commercial du mini s'applique à elles. Il y a cette typologie spécifique des mini-apps ou tiny-apps de Google, hein, des apps dans des apps, qui vont amener des enjeux économiques spécifiques que peut-être tu maîtrises mieux que moi, Anthony.
Oui, c'est les enjeux de low cost, mais ton exemple, il est hyper intéressant. Alors, peut-être une variante de ces bundles d'applications pour des commerces locaux, j'ai l'impression que c'est surtout ça, c'est ces versions zéro ou light de certaines applications populaires, la plus connue étant peut-être Facebook Zéro pour les pays dits en voie de développement. Donc c'est une version de Facebook déjà gratuite, hein, la data n'est pas facturée, qui se charge beaucoup plus vite parce que le code est optimisé, donc moins énergivore. Alors ça c'est préoccupant parce que du coup on pourrait se demander mais pourquoi on n'a pas ça dans nos pays dits développés. C'est un peu comme si on n'avait pas accès au Coca Zéro, j'en sais rien, mais moi j'ai envie d'avoir ce Facebook là. Mais alors du point de vue Facebook c'est très malin évidemment, c'est peut-être une solution intelligente pour augmenter encore d'un milliard leur base d'utilisateurs qui sinon va stagner même s'il est déjà colossal.
Ouais, puis alors l'idée d'avoir une version zéro du site, elle ne s'impose pas uniquement dans des cas, on va dire, d'urgence ou de demande commerciale, mais justement dans des cas d'urgence humanitaire. Il y a le site de CNN qui avait eu une particulièrement bonne presse à l'époque du passage de l'ouragan Irma en Floride. Ils avaient produit une version extra lean, donc ça veut dire extra maigre dans le langage de la tech. Le CSS, donc le code qui permet de styler la page web, avait été repensé pour des connexions lentes. C'était light.cnn.io et beaucoup de gens avait dit, mais pourquoi le site de CNN normal, il n'est pas codé comme ça? Parce que finalement, non. C'est beaucoup mieux.
En fait, ils l'ont depuis super longtemps. Ça date depuis 2001, en fait, cette version-là.
Mais elle a fait plus de bruit récemment, mais aussi parce que c'est
parce que ça faisait un bail qu'il n'avait pas mis en route aux États-Unis.
C'est un sujet de discussion de faire du code plus léger. Alors attention, hein, c'est pas, encore une fois, le mini n'est pas intrinsèquement vertueux. Le mini, c'est aussi un moyen de faire de la gamme. Je me suis encore intéressée à Google Home. Je sais pas, peut-être.
Mon obsession.
Noël oblige. C'est ça que tu veux pour Noël, Anthony, si tu veux.
Ça craint au
pied du sapin. Alors, pour rappeler quand même ce que c'est cette enceinte terminale mi-majordome, mi-enceinte de radio, qui existe en version normale et qui existe en version mini. Mais c'est pas mini du tout de multiplier comme ça les produits. Et puis c'est comme dans la nourriture. Plus on fait des mini portions, plus on crée d'emballage en fait.
Bah exactement, parce que le Google Home Mini, en fait, le truc c'est juste d'en mettre un dans chaque pièce. Mais au final, ça en fait plein. Et donc c'est comme les consoles de jeux Nintendo NES qu'on rachète en version plus petite ou Super NES, ça cartonne, hein, c'est en rupture de stock. Et dans un tout autre sens, le concept de mini, ça affecte le numérique d'une autre façon, un peu plus abstraite. C'est ce qu'on appelle la minification dans les langages de programmation, en tout cas dans les prêts de programmation, c'est cette façon de faire du code qui consiste à le compresser, à virer tous les sauts de ligne, tous les espaces, de réduire les caractères au maximum afin d'avoir un espèce de paquet de caractères qui du coup va optimiser le chargement des pages web. Ça peut paraître anecdotique, mais pour des sites à très forte audience comme Google, ça ne l'est pas du tout. Ça peut faire gagner des millions d'euros.
Je vois que le temps se rétrécit, donc nous avons pour aborder le genre peu de temps. Je vais faire de la théorie mini queer, on n'a pas le temps, théorie mini féministe. Minification des téléphones, concentration des services dans un seul terminal, ça fait muter les usages. La passerelle que je ferais, c'est en pensant à ce mouvement vers des mini sacs à main. Se souvenir aussi hein, qu'il y avait eu une controverse il y a quelques mois sur le fait que les poches des vêtements pour femmes sont toujours plus petites. Si petites d'ailleurs qu'on n'y met pas de téléphone. Alors, il faut citer l'excellent article de Marie Kirschen, qui avait eu d'ailleurs un feedback absolument monstrueux. Elle s'était fait harceler en ligne à la suite de la parution de cet article. Mais enfin, ça a le mérite de poser la question. Mini est question de genre, mini et puis question du masculin et du féminin.
Mais on devra sans doute faire une autre émission là-dessus, vu que celle-là est déjà remplie jusqu'à ras-bord.
On a encore le temps, hein.
Ah, je crois que c'était fini.
Mais non, j'ai compressé, mais là tu peux décompresser. Voilà.
Je suis désolé, Xavier, il faudrait que tu coupes cet extrait.
Code minifié n'est pas égal code supprimé. C'était fini.
pas grave.
Dis-moi si je me trompe, mais je peux m'empêcher de voir dans tout ça, dans la mode du mini et du petit, des parallèles avec le vocabulaire du slim. Et je pense ici au téléphone, évidemment, aux ordinateurs portables, Air, de plus en plus léger, Xavier en parlait, où tout est soudé. Et peut-être sans doute un lien avec le régime, le diet.
Effectivement, minifié, donc c'est aussi un enjeu à l'endroit des corps dont on a parlé en début d'émission. Et puis quand même, il faut le dire, c'est quand même souvent un enjeu pour les personnes assignées ou définies comme des femmes. Moi, je me rappelle sur Instagram, donc là, on revient aux apps, cette mode de la A4 waist, donc la taille A4, c'est un jeu ou une tendance qui était venue de Chine, dont le principe était de se prendre un selfie de soi avec la taille dissimulée par une feuille A4. Donc il fallait avoir la taille très très fine. Alors les corps rétrécissent là, non pas en hauteur mais en largeur. Et puis les régimes aussi, on voit des nouvelles pratiques alimentaires émerger. Parce que finalement, pour être maigre, il ne faudrait pas faire un gros régime. Donc on fait des mini-diets, on fait des mini-diètes. J'ai vu il n'y a pas longtemps des mini-diètes de 5 jours ou 12 heures. C'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas que les corps qui rétrécissent, les régimes eux-mêmes rétrécissent.
Mais demandons au professeur Moustache.
Cher prof, je voulais savoir si c'était possible de rétrécir les marmots. Parce que moi, parfois, je les rangerais bien dans une boîte d'allumettes.
Ah, chérie, j'ai rétréci les gosses de Joe Johnston. Ça date quand même de 1989.
Du temps du Minitel?
Pour Nathanaël et tous ses prépubères qui n'ont pas vu ce super film, je résume. Le professeur Salinski crée un rayon laser qui rétrécit par accident ses enfants.
Mais où est-ce qu'on est?
Dans le ventre de ton père, il nous a bu.
Je croyais que j'étais imbuvable. C'est pas le moment de plaisanter. Oh là là, Amy, emballe tes affaires, on déménage. Amy, perds ton sens de l'humour. Vous dirigez un régime totalitaire ou quoi? Combien de temps tu crois qu'on peut tenir?
Pas longtemps. L'estomac de ton père va tout faire pour nous digérer, en commençant par ranger la carrosserie. Mais ça pourrait être bien pire.
Comment ça, pire?
Me bouscule pas, je réfléchis. Il faut vraiment que ton père apprenne à mieux mâcher ses aliments.
On s'enfonce. Une dernière parole de sagesse avant qu'on soit tous digérés?
Eh bien, il suffit d'imaginer que ça, ce sont les vacances en terre de feu qu'on n'a jamais prises.
Avec tout cet acide gastrique et 2 tonnes de morceaux de banane.
Merci de ta coopération, Amy.
De rien.
Extrait de la série, chérie, j'ai rétréci les gosses. D'ailleurs, c'était le premier épisode, c'est ça?
Oui.
Ok. Bon.
On a rétréci les gosses, mais que reste-t-il à réduire à part
120 secondes.
Ok, ça marche. En tout cas, plus on réduit, plus on augmente, sauf peut-être à la radio. Mais le fantasme mini, comme tu vas le développer, Pia, c'est aussi un fantasme maxi. C'est ça le paradoxe.
Mais oui, c'est ça qui est génial, parce que notre ami Matt Damon, là, qui réduit dans Downsizing, c'est un prétexte à avoir des bouteilles de vodka géantes, des saltine crackers géants. Alors
trop
en plus,
cool.
Avec placement de produits géants, bien entendu. Mais déjà, hein, dans Chérie, je rétrécis les gosses, on avait les fameux gosses qui faisaient un festin d'un morceau de cookie qui était tombé dans la pelouse. Donc en fait, on rêve de quoi? De ressources illimitées. Donc on serait plus riche, non pas en accroissant des richesses, mais en se réduisant soi et donc ses besoins.
Comme les anneaux gastriques.
Ouais, quelque part. Et du coup, je pense que mini et question alimentaire, ça, on va être obligé de revenir là-dessus. On avait prévu de faire un topo sur la grossophobie, la question des formats de corps, mais peut-être qu'on va faire un truc sur grossophobie et app. Il y a peut-être quelque chose à faire.
Ouais, on va essayer de le creuser juste pour dire en fausse conclusion que ce que recouvre le maxi, c'est aussi l'envers des apps, les data centers qui sont très énergivores. Donc plus on réduit, plus on augmente, plus on déporte ailleurs, ce qui permet de faire fonctionner les applications, ce qui montre encore une fois, si besoin, qu'on ne peut pas penser ces objets-là autrement que dans un système technique, un système d'objets pris en réseau. Ça, c'est super important quand on fait du design, me semble-t-il.
Bah, du coup, on se dit peut-être qu'il faudra faire l'envers de l'émission mini, peut-être un super size me.
Ouais, allez, on part là-dessus.
Pas mal. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskrit, Chief Armstrong Officer, Pierre Pandelakis, Chief Nanometer Officer, et Anthony Mazur, Chief X-Unit Officer. Il ira chercher X-Unit et il verra que c'est pas une mesure fiable. C'est en rapport avec les X-Ray d'ailleurs. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité des programmes, les extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, à part les extraits musicaux et de films. L'intégralité est en Creative Commons. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Quoique, non, je crois qu'il va avoir une pause de 2 semaines. Pour la première diff au moins. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous rendons l'antenne pour l'impromptu cultivé de Monique Blanquet. C'était petit quand même sur Sarko. Fallait franchement que vous remettez ça.
Non mais Anthony doit mettre à jour ses blagues, il me l'a dit encore à midi.
Ouais, faut que je me refasse sur ma compte.
Gauchiste.
Mais bon, c'est...